Vous écoutez
RMC. RMC, midi, 14h, Neumann le Chypre.
Laurent Neumann, Alexandre Devecchio et Laure Clausier.
Salut les amis, très heureux de vous retrouver, c'est Laurent Neumann.
Salut à tous, c'est Alexandre Devecchio.
Bonjour à tous, c'est Laure Clausier, on est ensemble jusqu'à 14h. Mesures liberticides, dictature, apartheid, coup d'état sanitaire. Les mots pour qualifier la politique sanitaire sont durs et parfois manquent de sens. Alors les anti-Macron dépassent-ils les bornes? C'est notre question jusqu'à 13h.
Oui, et à 14h, on parle de quoi? On parle du pass sanitaire.
À 13h,
on parle du pass sanitaire au quotidien. Bon, vous êtes pour ou vous êtes contre? D'accord, très bien. Mais la vraie question, c'est est-ce que ces mesures sont applicables ou pas? On vous attend au 32-16. Et là, pour le coup, il y a débat.
À 12h50, on va jouer au C'est quoi ça, notre jeu sur l'actualité. Cette semaine, vous gagnez votre séjour en famille pour 4 personnes au Futuroscope. Arthur, l'aventure 4D, la danse des robots, la machine à voyager dans le temps des lapins crétins. Ah. Tout ça, c'est pour vous. Vous pourrez même dormir là-bas. Vous envoyez dès maintenant JEU par SMS au 73216 et on jouera ensemble tout à l'heure. L'extension du pass sanitaire annoncée par Emmanuel Macron mardi soir met très en colère une partie des responsables politiques qui n'hésitent pas à utiliser un vocabulaire très très fort. Petit florilège avec Florian Philippot et Nicolas Dupont-Aignan.
Emmanuel Macron a fait lundi soir un coup d'état sanitaire, instrumentalise la peur des Français, joue sur la peur, manipule pour dissimuler sa propre responsabilité.
On arrête le délire tyrannique, le pass sanitaire qui a été annoncé hier, et j'en appelle à ce qu'on sorte de cette folie, parce que là, ça va finir extrêmement mal si on continue comme ça.
L'eurodéputé écologiste Michel Rivasi a de son côté considéré que c'était l'arrivée de l'apartheid dans le pays des droits de l'homme. Sur Twitter et les autres réseaux sociaux, les commentaires mettant en avant une dictature en construction se sont multipliés. On fait même remonter cette tendance. Tout un vocabulaire de la fin de l'état de droit monte sur Twitter. Alors notre question, les anti-Macron dépassent-ils les bornes? Laurent, tu dis oui.
Oui, enfin ils ont dépassé largement les bornes de la bêtise. Moi je me souviens de la phrase qu'on avait l'habitude de citer de Talleyrand, tout ce qui est excessif est insignifiant. Et maintenant, on a changé de sens. Maintenant, tout ce qui n'est pas excessif n'est plus signifiant. Donc, tout le monde s'en donne à cœur joie. On emploie des mots dont on ne maîtrise absolument plus le sens. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que, oui, ils ont dépassé les bornes, ces gens-là, puisque certains, employant des mots qui dépassaient, heureusement, leur pensée, ont fait amende honorable, ont retiré ces mots et se sont même excusés. Je pense à Michel Rivasi, qui avait comparé le pass sanitaire à l'apartheid. Elle a retiré... elle a retiré ses propos. Isabelle Balkany, qui a comparé le pass sanitaire à l'étoile jaune, elle a retiré et elle s'est excusée. Mais certains ne s'excusent pas. Certains continuent. C'était le cas de ceux qu'on vient d'entendre il y a quelques instants. Et de toute façon, ceux-là, ils ont déjà perdu la bataille. Quelles que soient les questions qu'ils posent, et oui, peut-être qu'ils posent parfois de bonnes questions, mais ils ont déjà perdu la bataille. Les deux tiers des Français sont d'accord avec toutes les mesures qui ont été présentées lundi par le président de la République. Il y a maintenant 79% des gens qui sont prêts à aller se faire vacciner. Et d'ailleurs, si on ne croit pas les sondages, on met toujours les sondages, les mêmes d'ailleurs qui critiquent les responsables politiques critiquent les sondages aussi. Mais quand on ne croit pas aux sondages, on croit au moins aux faits. Et les faits, c'est qu'en 24 heures, il y a 2 200 000 personnes qui sont allées prendre rendez-vous. Donc, on n'est pas dans une dictature sanitaire. Et si d'ailleurs, on était dans une dictature sanitaire, les amis, mais ceux qui dénoncent cette dictature n'auraient pas l'occasion de le dénoncer. Ils n'auraient pas le droit de la dénoncer. Ce qui est bien la preuve que dans ce pays, on est bien en démocratie et qu'on peut tout dire, même de grosses, grosses bêtises.
Alexandre.
Non, mais Laurent Neumann s'indigne, joue les offensés comme s'il il a de la bouteille. Laurent Neumann, il connaît le débat politique, le coup d'état sanitaire. Enfin, c'est François Mitterrand qui parlait à l'égard du général de Gaulle du coup d'état permanent. La gauche nous a enquiquinés. Je reste poli en traitant tout homme de centre droit de fasciste pendant des années depuis mai 68. Et maintenant, on a Laurent Neumann qui fait la morale, il ne faudrait pas dire ceci ou cela. Alors oui, je pense qu'effectivement, parler d'étoiles jaunes, c'est malvenu, c'est insulter les victimes de la Shoah. Donc c'est là, je vous rejoins, c'est assez imbécile. facile.
Et l'apartheid, mais c'est insulter tous les Sud-Africains.
Aussi, voilà. Mais il n'empêche qu'il y a certaines bonnes questions qui sont posées et qui devraient être posées. Je suis pas sûr que ça fait tant consensus que ça. Et si ça fait consensus, bah, les Français ont tort, parce qu'ils devraient s'interroger. Un pass sanitaire, c'est pas anodin. Et vous, Noron Neumann, on aurait parlé de ça, avant la crise du Covid il y a 2 ans. Vous auriez dit, c'est de la science-fiction. On est chez Orwell. C'est un scandale. Donc, non, il ne faut pas banaliser ce genre de choses-là. Alors, ça crée pas l'apartheid, mais ça crée deux catégories de Français dans une France qui est déjà fracturée. Je suis pas sûr que ce soit bienvenu. Ça, c'est une société du contrôle permanent. Voilà. Moi, je n'aime pas le climat qui est en train de s'installer depuis la crise sanitaire. D'autant plus qu'on n'est pas confronté à la peste noire. D'autant plus que, moi, je pense que si les personnes à risque sont vaccinées, on peut juguler l'épidémie. Donc, il y a une politique de la peur que je trouve malsaine et pas très démocratique, pour tout vous dire. Ça ne veut pas dire que c'est une dictature, mais ce n'est pas la démocratie que j'aime.
On va aller au 32-16 dans un instant, mais avant, Lisa Marie, bonjour, on peut voter sur les réseaux.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. En ce 14 juillet, on vous pose la question, les anti-Macron dépassent-ils les bornes? Vous pouvez nous répondre sur Facebook, sur Twitter et sur l'application RMC.
Et avant d'aller au 32-16, on est avec Jérémy Trottin, bonjour, chef du service politique de bonjour. RMC. Est-ce qu'il y a une espèce de force politique des anti-vaccins qui représente quelque chose d'homogène, ou c'est juste des individualités qui s'expriment et parfois de manière outrancière?
Ah, c'est une galaxie. Déjà, il y a d'une part en effet des Français qui sont contre le vaccin, la vaccination. Alors ceux-là, ils sont différents. Et puis vous avez en effet des individualités que l'on retrouve à la fois sur les réseaux sociaux et qui ont parfois à la fois pignon sur rue et qui sont parfois présents aussi dans des manifestations. Il y a notamment le chanteur Francis Lalanne, très opposé à tout ce qui est vaccin, mesures contre le pass sanitaire, les masques et j'en passe. Il y a aussi cette généticienne qui a fait souvent, qu'on retrouve sur des estrades, mais qui s'appelle Alexandra Henrion-Claude. Elle était généticienne donc, ancienne proche d'Axel Kahn, et elle a changé complètement de discours, et aujourd'hui elle est complètement opposée à tout ce qui est masque, là encore, vaccination, passe sanitaire, et j'en passe. En tout cas, on voit que c'est une forme de galaxie, mais il n'y a pas d'homogénéité, et même s'il y a des personnalités politiques comme Nicolas Dupont-Aignan, Florian Philippot, Michel Rivasi, mais qui sont en réalité tous d'un parti différent, il n'y a pas de courant politique qui, pour le moment, fédère ces anti-vaccins. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas le cas à l'approche de la présidentielle, parce que bien sûr c'est une tendance peut-être de fond, même si elle est sans doute ultra minoritaire dans le pays. Certains chercheront à la récupérer électoralement. Vous savez, dans 9 mois, c'est la présidentielle, donc ils vont pas se priver, certains, d'aller chercher, ou du moins tenter d'aller chercher ces voix. Mais tout à l'heure, on disait ces anti-Macron, anti-vax, en réalité, ce sont des anti-systèmes. C'est même pas sûr que ces gens-là ont l'intention de constituer la moindre force politique, et encore moins l'intention de se rendre aux urnes. Donc, il faut aussi faire attention à ne pas mettre une forme d'effet loupe sur quelque chose qui existe, mais qui est peut-être ultra minoritaire actuellement dans le pays, si bien sûr on sépare ça des gens qui sont anti-vaccination. C'est pas tout à fait la même chose.
On va aller au 32-16.
RMC, Neumann le Chypre.
32-16. Elle était avec Frédéric qui nous appelle depuis Cassis, qui est une infirmière retraitée. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Toi, tu as l'impression que le bon sens a quitté la terre.
Complètement. Je trouve qu'en France, nous avons énormément de chance. On a réussi à avoir un vaccin au bout d'un an à peu près, que c'est une chance, qu'il faut la saisir, qu'il faut essayer tous se mettre en ordre de bataille pour juguler cette épidémie et reprendre une vie normale.
Donc ouais. Quand tu entends des mots comme mesure liberticide, dictature, apartheid,
je pense que
ça résonne comment, toi ?
Je ne connais pas la Corée du Nord ou la Chine ou d'autres pays. Nous sommes un pays démocratique. Je pense que les gens devraient prendre leurs responsabilités. C'est-à-dire que s'ils ne veulent pas se faire vacciner, c'est leur droit. Par contre, pour ne pas mettre les autres en danger, eh bien, il faut qu'ils se retirent un petit peu de la société, en fait. Et le pass santé permet justement qu'on puisse retrouver une vie d'avant, que les commerçants puissent de nouveau travailler. Et puis voilà. Mais dans ces cas-là, ils prennent leurs responsabilités. Ils veulent se mettre à contre-courant. Donc, ils disparaissent un peu du... voilà, ils essayent.
Ouais, c'est marrant, t'appelles ça le pass santé.
Ouais, mais Frédéric, je suis absolument d'accord avec toi et ça me permet de rebondir sur ce que disait Alexandre en présentant son avis. Moi, je suis toujours très, très étonné. Toi, par exemple, qui ne cesse sur tous les sujets d'ailleurs, de dire dans la vie, il y a des droits et des devoirs, ou qui ne cesse de dire la liberté, elle ne va pas sans le sens des responsabilités. Bah oui, ma liberté à moi, ça s'arrête là où commence celle de mon voisin. Mais surtout, l'exercice de la liberté n'est pas possible sans sens de la responsabilité. Et là, on parle que de ça en réalité. En réalité, qu'est-ce qu'on dit aux non-vaccinés ? On dit le problème, c'est que vous mettez en danger tout le monde. Pas parce que, évidemment, les vaccinés à risque, ceux qui sont à risque vont aller se faire vacciner. Mais le problème, c'est que le virus continue à circuler si certains ne se vaccinent pas. Et s'il continue à circuler, bah, il permet la création de variants. Et un jour, on va se taper un variant auquel les vaccins ne répondront plus. Et là, on sera reconfiné parce qu'il y aura 5, 10, 15, 20% de la population qui aura refusé de se vacciner. C'est exactement ce que j'appelle le sens des responsabilités. Parfois, on fait des choses en démocratie, justement. On fait des choses pas pour soi-même, mais pour le voisin, pour les autres. Et ça, j'ai l'impression que ça a totalement disparu. Voilà.
Mais toi, Alexandre, c'est l'idée du sanitaire qui prend le pas sur le politique.
Oui, parce que en fait, Laurent Neumann nous a fait un tableau apocalyptique des choses. On a eu tout dans cette crise. On a eu les rassurés, ceux qui nous faisaient un tableau apocalyptique. Rien ne s'est passé comme prévu. Donc l'histoire du variant mutant qui va tous nous décimer demain. Bon, pour moi, c'est encore de la science-fiction. Il y a eu un discours très longtemps qui a été tenu où il y avait des personnes à risque qui devaient se faire vacciner. On a eu un Emmanuel Macron qui jurait il y a deux mois que jamais il y aurait de passe sanitaire, que ça allait créer deux catégories de Français. C'est pas moi qui ai inventé ce discours, c'était le discours du président de la République. Donc on s'interroge, qu'il y ait débat, c'est un minimum. Alors oui, il y a des mots excessifs, mais c'est comme ça dans le débat politique. Quand il y a un débat politique vif, il y a des mots excessifs. D'ailleurs, ceux qui ont des mots trop excessifs ne permettent malheureusement pas d'avoir un débat serein, parce que c'est vrai qu'ils se prêtent à la caricature que vous vous empressez de faire. Mais comme ça a été dit tout à l'heure, il y a les anti-vax qui sont zinzin, il y a les anti-systèmes, ça c'est une catégorie que je trouverais plus vaste, qui trouve que peut-être on est mal dirigé, peut-être qu'il y a eu beaucoup de mensonges politiques et qui ont une défiance vis-à-vis du monde politique qui peut être légitime, compréhensible. Il y a ceux qui ont des peurs légitimes, donc tout ça est complexe, nuancé, et justement c'est, je pense qu'il faut rester dans la nuance. Mais je dirais que ceux qui parlent d'étoiles jaunes, bon, sont grotesques, mais ceux qui en appellent à la morale, qui font des tableaux apocalyptiques comme Laurent Neumann, sont aussi caricaturaux.
Tu me diras ce que j'ai dressé comme tableau apocalyptique. Hein.
T'as dit qu'il allait avoir des variants qui allaient nous attaquer.
Ben oui,
et ça, c'est pas gentil.
Mais c'est pas moi qui dis ça, c'est les médecins. Hein.
Est-ce qu'on a le droit de se tromper quand on fait de la politique ? Est-ce qu'on a le droit, comme Emmanuel Macron, de changer d'avis ? Ou finalement, comme dit Alexandre, une fois qu'on a changé d'avis, c'est terminé, on n'est plus crédible ?
Non, heureusement qu'on a le droit de changer d'avis, surtout que, comme on vient de le dire autour dans ce studio, rien n'est prévu. C'est-à-dire que ce variant, personne ne l'avait vu venir, mais surtout personne n'en voulait. Donc c'est compréhensible à la fois que vous êtes parfois pris à rebours de vos déclarations. Personne ne le fait de gaieté de cœur. Je prends un peu les propos d'Olivier Véran, même si je ne les partage pas. Mais en tout cas, je ne pense pas, en effet, sincèrement, que le gouvernement fait ça de gaieté de cœur. Et quand on entend des gens qui parlent de dictature, mais réveillons-nous, nous ne sommes pas dans une dictature. Est-ce que vous avez vu des centaines de milliers de personnes descendre dans la rue après la déclaration du chef de l'État ? Ils sont tous allés sur Doctolib. C'est incroyable quand même. Près de 800 000 personnes qui se sont fait vacciner hier. Près de 2 millions de rendez-vous de vaccination. Les gens ont besoin. Ce qui est intéressant, c'est que les gens qui disent « nous sommes dans une dictature », ce sont des gens qui en appellent à l'autorité. Et là, il y a eu un geste d'autorité. Et visiblement, un certain nombre de Français attendaient ce geste d'autorité pour passer justement le cap et aller se faire vacciner.
Deux choses, on est d'accord, je prétends pas que nous sommes dans une dictature, mais enfin, le fait que les gens ne descendent pas dans la rue, c'est pas une preuve. Généralement, dans les dictatures, les gens ont eu mal à sortir dans la rue parce que c'est réprimé. Ce qui n'est pas le cas ici, parenthèse refermée. Alors là, sur la demande d'autorité, je pense que vous avez raison, mais je pense que l'une des raisons de la défiance, c'est que les gens ont le sentiment que l'autorité autorité là s'exerce pour ce qui relève de droits fondamentaux qui soient quand même dans les droits de l'homme, dans la constitution, des choses qui n'avaient jamais été remis en cause, la liberté de circulation, la maîtrise de son corps, enfin etc. Donc c'est quand même un contexte particulier. Et par contre, ils ont l'impression que sur le domaine régalien, sur la sécurité quotidienne, face à l'islamisme, face à un certain nombre de choses, l'autorité ne s'exerce jamais. Donc il est plus facile d'exercer de l'autorité effectivement sur les honnêtes gens que sur les autres.
Et on va continuer à discuter ensemble des mesures de Macron, les mesures sanitaires. Est-ce que vous avez l'impression que certains qui les qualifient de dictature, d'apartheid, de coup d'État dépassent les bornes? Merci beaucoup à Frédéric d'être venu discuter avec nous. Dans un instant, on sera avec Fabrice qui nous attend à Nevers. On vous attend, vous, sur RMC 32-16. À tout de suite.
RMC, midi 14h.
Neumann Le Chypre.
Neumann Le Chypre, le retour. On est ensemble jusqu'à 14h. Mesures liberticides, dictature, apartheid, coup d'État sanitaire. Les anti-Macron dépassent-ils les bornes? Pour Laurent Neumann, oui, la bêtise n'a plus aucune limite. Pour Alexandre Devecchio, non, même excessif, les propos posent de bonnes questions. Lisa Marie, quelle est la première tendance des votes?
Vous êtes pour le moment 60% à répondre oui. Comme Laurent Neumann, vous trouvez que les anti-Macron dépassent les bornes?
RMC, Neumann Le Chypre.
32-16.
Et on est toujours avec Jérémy Trottin, chef du service politique d'RMC. Mais on est aussi avec Fabrice qui nous appelle depuis Nevers. Bonjour Fabrice.
Bonjour à tous.
Toi, tu es entrepreneur, Fabrice, et tu es plutôt côté Alexandre Devecchio.
Absolument, parce que moi j'ai une certaine réticence à l'égard de ce vaccin. Alors, je voudrais simplement souligner avant tout, c'est que je ne suis pas un anti-Macron. J'ai considéré que Macron s'était honoré quand il avait privilégié l'humain par rapport à l'économie avec les confinements. Pour la première fois de notre histoire, on avait fait passer l'humain avant l'économie. Et puis, je ne suis pas un anti-vaccin puisque je suis à jour de tous mes vaccins. Et j'ai même un vaccin qui m'a probablement sauvé la vie en décembre 88 quand j'ai fait face à une épidémie de méningite qui avait emporté un de mes camarades. Donc je ne suis pas un extrémiste, simplement je trouve que au départ déjà ce vaccin le vaccin, enfin je vais parler du vaccin Pfizer parce que c'est le plus répandu, et ça a déjà très mal commencé puisque Pfizer les laboratoires en général ont demandé aux États de les décharger de toute responsabilité en cas d'effet secondaire. Déjà ça jette un froid. Et je trouve que c'est quand même le propre de l'intelligence humaine que de douter d'un nouveau vaccin qui est arrivé sur le marché, sur lequel on n'a aucun recul. Hein. Alors il est vrai que si ça avait été marqué, s'il y avait eu le logo Pasteur sur les boîtes de vaccins, on aurait eu plus confiance, puisqu'on a cette image de Pasteur qui est rassurante pour nous Français. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que le climat dans ce pays devient de plus en plus détestable. C'est-à-dire qu'on oppose les vaccinés contre les non-vaccinés, on les traite de complotistes à longueur de journée, et on est en train de fracturer l'unité nationale avec ce sujet. Et ça peut avoir des conséquences assez graves, il me semble.
Alors Fabrice, plusieurs choses. D'abord, une chose, alors je vais y aller avec prudence, mais si ce que j'ai lu est exact, lorsque les laboratoires ont signé les tout premiers contrats avec notamment les États-Unis et Israël, je te confirme qu'ils ont demandé à être déchargés de toute responsabilité en cas de problème, d'effet secondaire, etc. Mais je crois que c'est ce qui explique que le contrat avec l'Union européenne ait duré aussi longtemps, parce que je crois que l'Union européenne ne voulait pas décharger la responsabilité des laboratoires. Mais en même temps, comme personne n'a eu l'occasion de lire le contrat ou les contrats, je peux pas répondre à ta question. Mais
c'est intéressant, ça manque de transparence, Laurent Neumann.
Oui, c'est vrai. Mais ce que j'ai lu des discussions qui ont eu lieu, c'est que justement avec l'Union européenne, ça avait duré plus longtemps. On a suffisamment reproché à l'Union européenne d'avoir retardé la campagne de vaccination à cause d'une signature de contrat qui est venue tard. Et moi, j'ai cru comprendre que l'une des raisons, c'était justement qu'il y avait eu bras de fer. Bagarre avec les labos. Mais
j'ai aussi lu
qu'il
tirait les prix. Mais...
Alors ça peut éveiller les doutes, hein. on est d'accord. Et puis ce que je veux dire, on parle d'un emballement de vaccination que le président Macron a convaincu les Français. Il ne les a pas convaincus.
Quand
vous posez la question à des gens qui sont vaccinés, ils vous diront on est bien obligés, on ne pourra plus rien faire. On n'a pas le choix. Donc, ils ne font pas ça par conviction, ils le font par obligation. Donc il n'y a pas d'adhésion à ce vaccin.
Oui, mais Fabrice, le point de départ de ce raisonnement, c'est quand même de dire il y a le vaccin et c'est une chance extraordinaire. Il faut par tout moyen convaincre les gens d'aller se vacciner. Alors on les convainc, c'est ce qu'on a fait pendant 6 mois. Je te rappelle quand même qu'en décembre dernier, sondage Elab pour RMC et BFM TV, il y avait 34% des gens qui étaient prêts à aller se faire vacciner. On est aujourd'hui le 14 juillet, dernier sondage, 79% des gens sont prêts à aller se faire vacciner.
Ça veut dire que c'est le travail de conviction, mais c'est pas l'obligation de c'est pas le pass sanitaire. Les 2 millions là, c'est des gens qui ont eu peur de pas pouvoir partir en vacances.
Tu as raison Alexandre, mais ceux qui expliquent qu'on n'a pas fait le travail de conviction, mais Macache, bien sûr qu'on l'a fait ce travail, tout le monde l'a fait et d'ailleurs ça a marché. Et deuxièmement, on passe à l'étape suivante. Effectivement, tu as mille fois raison, le pass sanitaire, c'est d'abord fait pour obliger les gens à aller se faire vacciner. C'est l'absolue vérité. Ce qu'il a fait lundi soir, ça s'appelle un électrochoc. Ben voilà, ça a marché. 2 200 000 personnes sont allées se faire vacciner. Donc ça veut dire qu'on est en train d'accélérer et de convaincre non pas les anti-vax, mais les hésitants, ceux qui procrastinaient, ceux qui disaient je le ferai à la rentrée, je verrai ça après les vacances. Voilà ce qui s'est passé, c'est tout, rien de plus.
Était-ce bien nécessaire ? Toute la question est là.
Une question politique pour Jérémy. Jérémy, quand on voit les antisystèmes s'exprimer sur les réseaux sociaux, on a un miroir déformant. Je rappelle qu'il y a quoi, 10% des tweets qui sont écrits par 80% de la communauté Twitter. En fait, il y a très peu de gens qui s'expriment. Mais est-ce que ça fonctionne d'être antisystème ? Est-ce que par exemple Florian Philippot, sa boutique fonctionne bien ? Ou en fait, en réalité, c'est pas parce qu'il a 270 000 vues sur une vidéo où il dit c'est une dictature, c'est scandaleux. En fait, on regarde, mais il n'y a pas d'adhésion.
Florian Philippot, c'est assez simple. Il a été candidat au régional il y a 5 ans dans le Grand Est. Il était en passe de gagner un duel. Enfin, c'était en triangulaire. 5 ans plus tard, il a quitté le Rassemblement National. Il est à 7%. En réalité, c'est pas uniquement les idées que vous portez qui vous apportent des voix électorales. Il occupe un créneau, Florian Philippot. Et il espère, il cherche
ce créneau.
Un créneau
de quelle taille? C'est ça ma question.
Ça fait 7% dans le Grand Est. Au niveau national, je sais pas combien ça peut faire. On verra s'il est candidat sous l'étiquette Les Patriotes en 2022. En tout cas, il cherche sa place dans une galaxie qui est assez nombreuse. Il cherche sa place à la droite de Marine Le Pen. Il cherche sa place aussi aux côtés dans une galaxie qui est occupée à la fois par Nicolas Dupont-Aignan et peut-être bientôt par Éric Zemmour. Donc, c'est difficile de voir si ça aura des retombées électorales. En tout cas, c'est une façon pour lui d'exister à la fois sur les réseaux sociaux et de ne pas mourir médiatiquement, parce qu'il faut aussi rappeler qu'il n'a quasiment plus de mandat. Donc, voilà. Enfin, il y a un moment, c'est aussi une façon pour lui d'exister politiquement, et c'est une façon pour lui d'être invité dans différents.
Mais soyons clairs. Quand Nicolas Dupont-Aignan dit que les mesures prises par Macron sont contraires à nos règles, à la liberté notamment, mais il y a débat. Moi, je veux bien qu'on en débatte. C'est un vrai sujet. En revanche, quand il parle de coup d'État sanitaire ou quand d'autres parlent de dictature, là, tout à coup, ça n'a plus aucun sens. Là, il n'y a pas de débat. Il peut pas y avoir de débat puisque tout le monde sait que c'est pas vrai. Il suffit de sortir dans la rue ce matin pour savoir qu'il y a pas de dictature. Donc il y a plus de débat. Il peut y avoir débat sur le fond. Moi je veux bien débattre avec toi, Alexandre.
Non mais on peut jouer sur les mots.
S'ils sont convaincus de ce qu'ils disent, de ce qu'ils défendent, des idées qu'ils défendent sur la liberté, mais ils ne se rendent pas compte à quel point ils dévalorisent leur position. Il n'y a plus de débat une fois qu'ils ont dit ça. C'est terminé. Donc eux-mêmes se tirent une balle dans le pied.
Je suis un peu d'accord, puisque je suis parmi ceux qui détestent la diabolisation, mais enfin c'est une tactique qui a été employée par une partie du monde médiatique, du monde politique depuis des années. C'est pas très nouveau.
Mais attends,
c'est pas parce qu'aujourd'hui ce sont des antisystèmes, qu'il faut leur jeter plus la pierre qu'aux autres autrefois. Après, je rejoins ce qui a été dit.
Alexandre, Philippot tente d'occuper
un créneau, mais il ne fait pas trembler la République. On voit bien qu'il est extrêmement minoritaire aujourd'hui dans le débat.
Même le mot que tu viens d'employer est risible. Okay. S'entendre dire que Nicolas Dupont-Aignan est antisystème, mais j'ai envie de me rouler par terre. Il est député, il a été élu maire, il est à la télévision matin, midi et soir. Mais où est-ce qu'il est antisystème ?
Il a fait les nains, non ?
Même ce mot-là est une blague.
Oui,
je parlais
de la galaxie anti-système, puisque c'est comme ça que vous les avez désignés. Moi, je pense que c'est excessif, mais je rappelle, voilà, toujours que De Gaulle, qui a libéré la France, c'est pas le cas d'Emmanuel Macron, a été longtemps traité de fasciste, de dictateur. C'est quelque chose de très très banal dans le débat français. Ça n'a pas grand chose à voir avec les réseaux sociaux, ni les complotistes.
Bah, tu vois, quand j'entends les anti-vaccins dire qu'ils entrent en résistance, pardon, De Gaulle, quand il part à Londres, lui, il est anti-système. C'est ça, l'anti-système. C'est oui, pas les résistants de la dernière heure là qui luttent contre un supposé ennemi qui serait le vaccin.
Je suis bien d'accord, ce qui n'empêche pas de débattre sur le fond des choses. Et effectivement, on met à mal, peut-être pour de bonnes raisons, peut-être va-t-on trop loin, des libertés fondamentales qui n'avaient jamais été remises en cause jusqu'ici dans une démocratie. Parce que la démocratie, c'est la souveraineté populaire. J'y suis très attaché.
C'est
souvent,
pas tout à fait vrai, parce que le pass sanitaire...
Mais c'est aussi les libertés fondamentales. Et de plus en plus, d'ailleurs... Ces dernières années, la tendance de la gauche était de mettre en avant les droits individuels, etc. Donc, ça va être intéressant parce qu'après, certains qui ont défendu les droits individuels à tout prix, y compris dans des affaires de terrorisme, j'espère qu'ils feront leur autocritique après cette crise,
tu sais,
et qu'ils arrêteront de nous bassiner, enfin, qu'ils seront logiques avec les libertés individuelles quand il y a une menace collective pour l'intérêt général.
Tu sais qu'Emmanuel Le Chypre serait là, il te dirait, mon petit Alexandre, pourtant, il pourrait défendre ce que tu défends, mais il te dirait qu'il y a une grande démocratie qui utilise le pass sanitaire depuis des années. C'est la Corée. La Corée du Sud, évidemment. La Corée du Sud, le pass sanitaire, le QR code pour rentrer dans les... Et c'est une grande démocratie.
Oui, elle est en guerre avec la Corée du Nord depuis des années.
Non, je te parle de raisons sanitaires. Ils en sont à la quatrième pandémie, eux. Donc oui, ils connaissent, ils savent
moi,
comment ça
marche. Moi, j'aime bien le modèle de la Corée du Sud, protectionniste, etc. Ça me gêne pas, mais ça m'amuse de voir Laurent Neumann et d'autres défendre tout d'un coup la Corée du Sud comme un modèle. Voilà, non, c'est précisément ce que je disais.
Je pense que ça ne viendrait à l'esprit de personne de dire que la Corée du Sud est une dictature.
Il y a quelques dents, ceux qui se proclamaient grands démocrates. Voilà, dès qu'on remettait en cause un certain nombre de droits individuels, même de droits nouveaux, on parlait de pas de dictature, mais voilà, il y avait des accusations.
L'état d'urgence sanitaire est exorbitant du droit commun, je te l'accorde. Comme l'est l'état d'urgence tout court au moment des attentats. Heureusement qu'à un moment donné, on sort de l'état d'urgence. C'est provisoire. Moi non plus, ça me plaît pas, ces méthodes. Moi non plus, ça me plaît pas, les confinements, les couvre-feux. C'est attentatoire à mes libertés individuelles. J'en ai aucun doute. T'as mille fois raison. Et il doit y avoir débat là-dessus. Mais la question, c'est pourquoi on le fait? On le fait parce qu'il y a 110 000 morts. Et on le fait parce qu'on l'a confiné.
Pourquoi,
il y a
eu des pourquoi ça aussi, c'est un des objets du débat. Est-ce que la pandémie est si létale, si grave, qu'il fallait le faire, qu'il fallait aller aussi loin? Et la deuxième question, c'est comment on en sort? Qu'est-ce qui restera de tout cela? Donc c'est très bien que des gens rappellent, pas forcément comme Nicolas Dupont-Aignan, mais un certain nombre de garde-fous.
Jérémy, dernier mot, l'état d'urgence, ça fait combien de temps que ça dure?
Ça dure depuis maintenant l'année dernière, au mois de mars, il avait été décrété, mais depuis nous sommes quand même dans un régime d'état d'urgence sanitaire transitoire, hein, c'est-à-dire que le gouvernement n'a plus du tout les mêmes outils qu'il avait il y a quelques mois. Par exemple, aujourd'hui, c'est impossible pour lui d'imposer un couvre-feu sur l'ensemble du territoire. Les seuls pouvoirs dont il dispose actuellement, c'est de pouvoir imposer un couvre-feu uniquement sur 10% du territoire.
Merci beaucoup Jérémy Trottin de nous avoir accompagné, chef du service politique d'RMC. Un grand merci à Fabrice qui était avec nous juste auparavant. Dans un instant, on sera avec Renaud qui habite à Achères dans les Yvelines et qui dit qu'il faut... Qu'est-ce qu'il dit Renaud, il propose... Je suis extrêmement fatiguée, je vous la refais. Renaud, il explique qu'on ne peut plus... il nous expliquera lui-même parce que moi,
j'arrive pas. Il faut arrêter de râler, il faut être constructif.
Voilà, merci, à tout de suite sur RMC.
Midi 14h.
Neumann Le Chypre.
Neumann Le Chypre, le retour. On est ensemble jusqu'à 14h. Mesures liberticides, dictature, apartheid, coup d'état sanitaire. Les anti-Macron dépassent-ils les bornes? Pour Laurent Neumann, oui, la bêtise n'a plus aucune limite. Pour Alexandre Devecchio, non, même excessif. Les propos posent les bonnes questions. On va retourner au 32-16.
RMC, Neumann Le Chypre.
32-16. Et on était avec Renaud qui nous appelle depuis Achères dans les Yvelines. Bonjour Renaud.
Oui, bonjour, bonjour à tous.
Salut Renaud, toi tu travailles dans la comptabilité financière et tu as l'impression que dans ces mots, il n'y a rien de constructif.
Oui, tout à fait, c'est ce que je pense. Je vous fais juste un petit topo. Moi, je ne suis pas dans la psychose, hein, je n'ai pas particulièrement à me faire vacciner. Je considère qu'à mon âge, pas particulièrement à risque, en bonne santé. Et je le mettais pro-vaccin à tout prix. Mais je suis pas non plus macroniste dans l'âme. Mais je voulais juste faire un petit topo. Quand tout ça, ça a commencé, on a fustigé à tort le fait qu'on n'avait pas de masque. Alors c'était un héritage des gouvernements précédents. Et on a bien rigolé avec Tibet India qui nous expliquait qu'on était trop bêtes à l'époque pour mettre des masques.
Ouais.
Bon, une fois qu'on en a eu, par contre, moi j'en voyais plein où ils ne les portaient pas. Donc déjà, je ne comprenais pas l'intérêt de fustiger le fait d'avoir des demandes de masques et après de ne plus pouvoir les porter. Mais en plus, après, ça a continué puisqu'on a dit bah, « il n'y a pas de vaccin ». Très bien, il n'y a pas de vaccin. Et puis, une fois que les vaccins arrivent, on dit « ah oui, mais non, finalement, mais les vaccins, on n'est pas sûr ». Mais il y a des doses disponibles, il faut y aller. Enfin, il y a un moment où on ne peut pas faire que râler, quoi. Il faut faire quelque chose de constructif, il faut avancer. Moi, j'ai juste relevé un petit truc de Javan Bardella. Alors bon, ça aurait pu être n'importe qui, mais je vois, début janvier, il dit qu'on est la risée du monde. Alors je vais bien l'entendre, pas de problème, on n'a pas de vaccin. Au mois de mai, il nous dit que la campagne de vaccination avance à la vitesse d'un escargot. Et hier, il nous raconte qu'il y a une justice à la brutalité du gouvernement n'obligeant le pass sanitaire. Donc, si ça, c'est l'opposition, écoutez, sincèrement...
T'as l'impression que c'est que de la critique, en fait, en permanence.
C'est que de la critique, il n'y a aucun pragmatisme. Et puis, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire que les plus faibles d'entre nous, finalement, on s'en fiche. On se balade tous dans la rue et on laisse faire dans ces cas-là. Mais après, ce qui va se passer, c'est que si on fait ça, il y en a qui vont se retourner sur le gouvernement en leur disant « ah, bah vous n'avez rien fait ».
Mmh. Donc, d'ailleurs Renaud, tu élargis, tu parles de façon générale des oppositions. Après l'allocution d'Emmanuel Macron, bon, évidemment, là, on en débat, j'ai été frappé de la violence de certaines réactions, apartheid, dictature, très bien. Mais j'ai été aussi frappé du silence d'un certain nombre de personnalités politiques, de droite comme de gauche,
de premier plan,
qui sont, qui sont possiblement candidats à l'élection présidentielle et qui, pour le coup, n'ont rien dit du tout.
Mais c'est quand même étonnant. Il ne va pas se mettre en porte-à-faux. Je suis sûr qu'il pense la même chose, mais qu'il ne veut pas se mettre le peuple à dos si jamais le peuple pense différent d'eux. C'est tout, c'est juste ça. C'est un manque de courage pour moi.
Ouais. Et Alexandre, je reviens deux secondes vers toi. Tu fais partie de ceux, et je suis souvent de ton avis pour ça, pour le coup, qui dénoncent la dictature des minorités.
Ouais.
Hein, souvent tu le fais et souvent je suis d'accord avec ça. Moi j'en ai marre que sur des tas de sujets ce soit toujours les minorités qu'on entend le plus, celles qui crient le plus fort, qui ont raison et à qui on donne raison. Mais là il se passe quoi? Les anti-vaccins, c'est la dictature de la minorité. Alors peut-être une grosse minorité, mais il n'y a plus que 20% des gens qui veulent pas se faire vacciner. C'est une minorité en démocratie. Et pourtant, on n'entend qu'eux, et il faudrait appliquer la politique gouvernementale, le mettre en danger 100% de la population pour cette minorité. C'est ça la dictature des minorités.
Il y a une différence entre les anti-vaccins et le fait d'accepter ou non le pass sanitaire. Moi-même, je vais me faire vacciner, mais je trouve que le pass sanitaire, c'est quelque chose qu'il faut manier avec précaution, qui peut fracturer la société et qui n'était pas forcément nécessaire pour le moment. Donc oui, en démocratie, c'est normal qu'il y ait des avis différents qui s'expriment. Quand je parle de dictature des minorités, je parle aussi sur des questions identitaires, des gens qui confondent d'ailleurs le débat démocratique avec des identités figées, essentialisées, et qui prétendent être représentatives de telle couleur de peau ou de telle orientation sexuelle. C'est quand même un débat un peu différent que là, un débat sur des mesures à prendre ou à ne pas prendre. Évidemment que la majorité doit avoir gain de cause à la fin. Mais je suis pas sûr que la majorité soit aussi écrasante que vous le prétendez. Les sondages sont à manier d'autant plus avec précaution qu'au moment du confinement, Jean disait, oui, si on est obligé d'être confiné, on ne va pas enfreindre la loi. Ça ne veut pas dire qu'ils trouvaient que c'était la solution idéale ou qu'ils approuvaient. Donc, et là, c'est pareil. Le pass sanitaire fait que des gens ont pris rendez-vous sur Doctolib immédiatement, mais c'est quand même sous la contrainte. Donc, je pense qu'on n'est pas dans une histoire de dictature des minorités, là. Et enfin, certes, je trouve que la majorité n'a pas assez voix au chapitre dans la démocratie telle qu'elle est actuellement, mais la démocratie, c'est aussi des libertés individuelles, des droits fondamentaux qui sont au-dessus de la majorité. Sinon, on est dans le despotisme de la majorité qui n'est pas souhaitable non plus.
Merci beaucoup, Renaud, d'être venu débattre avec nous dans Domaine Le Chypre. On était avec Malik qui nous appelle Descouens dans le Val d'Oise. Bonjour, Malik.
Oui, bonjour.
Thomas Malik, tu es informaticien, tu es plutôt côté Alexandre Devecchio.
Oui, tout à fait. Je pense que...
Mais par contre, il faut que tu te rapproches de ton téléphone parce qu'on t'entend loin dans ta salle de bain, là.
Là non, non.
C'est mieux, c'est beaucoup mieux.
Je
ne
suis pas dans
Malik.
Ma salle de bain.
Ah,
là,
c'est
vous
mieux.
M'entendez un peu mieux.
Ouais, c'est mieux,
d'accord.
C'est mieux.
Je disais, c'est un débat qui est assez... C'est-à-dire qu'il faut manier vraiment les mots assez, de façon assez précautionneuse, si je puis dire. Parce que je suis le premier à respecter les droits des minorités en général et leur avis. Je pense que la pensée unique, il n'y a pas pire. C'est-à-dire qu'essayer de convaincre tout le monde, que tout le monde soit d'accord avec nous, que les bénéfices du vaccin et tout ça, et ça, il n'y a pas de souci. Je pense qu'on pourra jamais y arriver et c'est d'autant mieux, je dirais, parce que les discordances sont là pour éventuellement pour le bien de la société en général. Par contre, là, on est dans des situations. De toute façon, il faut prendre une décision. On voit que les cas augmentent. On n'est pas sûr, mais on pense, et je pense que c'est quand on écoute un petit peu les spécialistes dire qu'il y a probablement une autre vague qui va arriver au mois de septembre. La question est simple. Est-ce qu'on laisse ce droit aux minorités en faisant prendre le risque à une majorité de perdre plusieurs droits? Parce que nous, au mois de septembre, on risque de perdre le droit d'aller voir un match, le droit d'aller voir au restaurant, le droit d'aller au cinéma, le droit de sortir chez soi. Il y a plein de droits qu'on risque de perdre. Donc là, c'est faire la balance.
Excellente question. C'est tout ce que je disais tout à l'heure. Liberté, responsabilité. Est-ce que pour sauvegarder les libertés aujourd'hui, on prend le risque de supprimer encore plus de libertés à la rentrée? En gros, c'est simple. Est-ce qu'il vaut mieux pousser de façon un peu contraignante à la vaccination maintenant ou confiner dans 2 mois? Moi, je pense que c'est pour ça que les Français... La vraie raison de la vaccination...
Vous voyez bien qu'il y a une forme de chantage là-dedans et qu'on n'est pas
d'accord
sur le diagnostic, sur la nécessité de reconfiner demain, sur le fait qu'il va y avoir une vague très importante qui va emboliser l'hôpital. On n'est pas sûr de tout ça. Donc, c'est sur ces points-là qu'il y a débat. Enfin, tout à l'heure, on parlait des libertés, des minorités, etc. Une démocratie, c'est aussi un certain équilibre des pouvoirs avec un certain nombre de contre-pouvoirs. Et on ne peut pas se satisfaire d'être gouverné durablement par un comité scientifique et un conseil de défense, que le Parlement soit sous les ténoirs. Voilà, tout ça mérite d'être soulevé et mérite débat. Ça ne veut pas dire qu'on est en dictature.
Ouais, sauf qu'à un moment, il faut quand même prendre une décision.
Allez, on continuera de débattre tout à l'heure à 13h. Mais avant, Lisa Marie, quel est le résultat des votes?
Je vous rappelle la question. Les anti-Macron dépassent-ils les bornes? Et vous êtes finalement 75% à avoir répondu comme Laurent Neumann. Oui, pour vous, les anti-Macron vont trop loin.
Les Français sont doués de raison.
Surtout quand ils sont d'accord avec toi.
Tu as remarqué.
On va jouer au C'est quoi ça?
RMC Neumann Le Chypre.
Le C'est quoi ça?
Et on joue au C'est quoi ça aujourd'hui pour gagner un pass de 2 jours pour 4 personnes au Futuroscope avec nuit incluse. On joue avec Aurélie et Mathieu. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Aurélie, bonjour. Toi tu es coiffeuse, tu nous appelles de Roanne dans la Loire. Tu veux jouer avec Laurent ou avec Alexandre?
Avec Laurent.
Ah, mais moi, je suis le chef du syndicat des coiffeurs.
Aurélie, c'est vrai.
Salut Aurélie.
Mathieu, toi, tu travailles dans le commerce, tu es à Nantes et tu joues donc avec Alexandre. Première question entre Aurélie et Mathieu. Alors, il n'y a plus de football, donc la première question n'est pas une question de football. Vous buzzez bien avec votre prénom avant de donner votre réponse, Aurélie et Mathieu. Première question, où s'est déroulée la traditionnelle parade militaire du 14 juillet?
Aurélie.
Mathieu.
Aurélie.
Paris, sur les Champs-Élysées.
Premier point pour Aurélie.
Il n'y avait pas de piège. C'était la dernière question d'hier.
Absolument. Absolument. Je vois que tu es attentif. C'est vrai, il a raison, Alexandre. C'était la dernière question d'hier.
Question entre Laurent et Alexandre. Après leur pari avec Emmanuel Macron, comment
Laurent.
Ça... Oui.
Carlito et McFly. Là.
Carlito et McFly qui ont volé
je
avec
dormais,
la patrouille de
pas,
France. Tu dormais. Tu fais des micro-siestes alors.
J'ai même pas vu qu'on passait à la deuxième question.
Question entre Aurélie et Mathieu. C'est donc la troisième question pour ceux qui dorment comme Alexandre. Quelle actrice française a monté les marches hier soir pour son long métrage inspiré de la vie...
Aurélie. Vas-y. Sophie Marceau.
Non, inspiré de la vie de Céline Dion.
Je sais aussi.
Ah, je sais qui c'est.
Non, on n'a pas le droit de répondre. Elle a joué dans Les Visiteurs.
Aline, oh.
Mais le premier épisode.
Valérie Mercier.
Oui, Mercier.
Ah, bien joué. C'était un travail d'équipe.
Non, mais Aurélie, elle avait sur le bout des lèvres.
Ah oui, carrément, je voyais sa tête. Et je voyais son accent aussi quand elle le faisait.
Question entre Laurent et Alexandre. Quelle entreprise américaine
Laurent.
Oui.
Google.
A été condamné à payer 100 millions de rames. Mais non, c'est Google, il a raison. On peut faire la liste de toutes les entreprises américaines que tu connais, mais non, c'est Google. On est
non, mais j'ai très peur un jour qu'il y ait une enquête pour dopage, parce que je suis trop dopé là, je pense.
Ah, ok, toi
ouais.
Oui, ça va. Bon, t'as pas peur
Non.
T'as pipi dans un tube pour prouver que t'avais les bonnes réponses. Question entre Aurélie et Mathieu, on était à 2 points partout.
Non, on est à 3-1.
Oui, on est à 3.
Il fait l'arbitre en plus maintenant,
Merci.
Laurent.
Non, mais on est à 3 avec le point Google que je ne t'avais pas mis, on est à 3.
C'est vrai.
Question entre Aurélie et Mathieu. Contre quelle équipe l'équipe de France de rugby s'est imposée hier pour...
Mathieu. Australie.
Oui, pour leur deuxième match test, l'Australie. On est donc à 3-3.
Non, 3-2. 3-2. 3-2.
Bah non, oui. Puisque Mathieu vient de mettre le point.
Bah oui, ça fait, il y avait 3-1, ça fait 3-2.
3-2.
Aïe. Aïe, aïe, aïe.
C'est toi qui vas être obligé d'aller faire pipi dans un tube.
Ouais, mais alors pas pour montrer que je suis dopée. Pour montrer, ils vont voir qu'il faut vraiment que j'aille me coucher. Question
entre Laurent et Alexandre.
Entre Laurent et Alexandre, qui est la présidente de la région Île-de-France?
Valérie Pécresse.
Valérie Pécresse. On est donc à 3-3.
Ah bah là, t'as réussi. Là, on
la
est à 3-3.
Remontada, on va y arriver, Mathieu.
Et du coup, Aurélie, tout va dépendre de toi.
Okay.
Alors, vous êtes prêts, Aurélie, Mathieu, cette question pour vous départager. Qui anime l'Intégral Tour sur RMC?
Aurélie.
Mathieu, t'as pas une idée?
Moi, je sais. Hein.
Tour ou... Comment ça se trouve? Ah, j'ai le bout de la langue.
Moi, je sais.
Ouais, mais ça compte pas, Laurent.
Ah, bah si.
T'as donné, bah non.
Bah, je le prends, Aurélie.
Ah, bah, si, je l'ai.
C'est Christophe Cessieux qui fait l'Intégral Tour. Alors, je vous en fais une autre.
Pour qui? Pour Aurélie et Mathieu?
Non, pour Laurent et Emmanuel.
Alors, non, entre Aurélie et Mathieu, vous n'avez pas l'air très branché vélo, donc on va faire plus simple. Qui présente la matinale sur RMC?
Oh, punaise.
Ça commence.
Nicolas Dupont? Aurélie?
Non,
la matinale, c'est
Qui présente?
Qui présente la matinale sur RMC?
C'est dur.
C'est pas Jean-Jacques Bourdin, c'est juste avant.
Ah, je crois savoir.
Aïe, c'est Mathieu qui a gagné.
C'est donc Mathieu, alors. C'était dur. Hein. Il avait fallu compter les points, c'était dur.
J'avais hésité avec Bourdin.
Ah, bah oui, mais c'est juste avant. Merci beaucoup à tous les deux, Mathieu. C'est toi qui gagne ton voyage au Futuroscope.
Désolé, Aurélie.
Pour 4 personnes, tu vas pouvoir dormir là-bas.
Même dopé, Laurent Neumann n'y arrive plus.
Non.
Le C'est quoi ça sur RMC avec le Futuroscope. Embarquez à bord de la nouvelle attraction Objectif Mars et devenez astronaute. Sensation garantie. Futuroscope, toutes les forces d'attraction.
Restez avec nous, dans un instant on va continuer à parler sanitaire, du pass sanitaire au quotidien. Est-ce que les mesures sont applicables dans les restaurants, dans les trains, au quotidien? Pour Laurent, oui, mais finalement peu importe, le but c'était de créer un électrochoc. Pour Alexandre Devecchio, non, c'est totalement kafkaïen. On sera notamment avec Jean-Jacques Samois, le patron du café du coin d'en bas de la rue, du bout de la ville, d'en face du port à Saint-Malo. Il est remonté comme un coucou suisse contre le pass sanitaire. On revient à tout de suite sur RMC.
RMC, midi 14h.
Neumann Le Chiffre.